Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons notre série très importante, l'ascension du vainqueur et son triomphe total. Notre titre numéro 17 sera Quel est le message du royaume des cieux ? La sainte parole de Dieu nous dit dans Saint Matthieu, au chapitre 3, verset 2 et au chapitre 4, verset 17, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Premièrement, nous avons le héros. En effet, Jean le Baptiste prêcha dans le désert le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Saint Marc, chapitre 1, verset 4. Ce qui était nouveau dans le baptême de Jean, c'est qu'il était destiné aux Juifs que les, on peut dire, ceux qui baptisaient, en l'occurrence le Baptiste, il plaçait les Juifs sur le même plan que les nations, c'est-à-dire que les non-Juifs. Jean-Baptiste était l'Élie, selon Saint Matthieu et selon Malachie, chapitre 4, versets 5 à 6, et j'ai dit Matthieu, chapitre 17, verset 10 à 13, et on peut ajouter Saint Luc, chapitre 1, verset 17. Il est venu pour préparer le chemin, Ésaïe 40, verset 3 à 4, et à nouveau Saint Matthieu, chapitre 3, verset 3. Il était revêtu d'une autorité supérieure à celle de tous les prophètes, Saint Matthieu, chapitre 11, versets 9 et 10. Il était le témoin de la lumière et de l'agneau, Saint Jean, chapitre 1, versets 7 et 8, ainsi que les versets 29 et 36. Il était le héros du roi, maintenant tout proche, Malachie, chapitre 3, verset 1 et Saint Jean, chapitre 1, verset 26. Il fut donc le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Saint Matthieu, chapitre 11, verset 11. Il était une lampe qui brûle et qui luit. Saint Jean, chapitre 5, verset 35. Il était une voix qui crie dans le désert. Saint Jean, chapitre 1, verset 23. Et Ésaïe, chapitre 40, verset 3, désignant le Verbe. J'aimerais répéter cela sans citer les citations bibliques que vous avez maintenant la possibilité de réécouter et noter. Alors je vous redis tout cela pour que ce soit bien compris. Jean-Baptiste était en quelque sorte l'Élie. Il était venu pour préparer le chemin. Il était revêtu d'une autorité supérieure à celle de tous les prophètes. Il était le témoin de la lumière et de l'agneau. Il était le héros du roi, maintenant tout proche. Il fut le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Il était une lampe qui brûle et qui luit, une voix qui crie dans le désert, désignant le Verbe. La parole est indispensable à la voix ne l'est pas à la parole. Saint Jean avait besoin de Jésus, mais Jésus n'avait pas besoin de Jean. quand j'ai dit Saint Jean, vous avez compris, c'était Jean le Baptiste dans notre texte. Jean le Baptiste avait besoin de Jésus. Mais Jésus n'avait pas forcément besoin de Jean. S'il est vrai que la parole et la voix se combinent au point de vue de celui qui écoute, eh bien la voix précède pourtant la parole. Elle est la première à frapper son oreille. Alors seulement le sens, la parole, atteint son esprit. Ainsi, Jean-Baptiste est venu le premier dans le monde, après lui seulement est venue la parole, la sainte parole, c'est-à-dire le Christ, le Verbe. C'est pourquoi Jean le Baptiste, c'est pourquoi il pouvait dire « Après moi vient un homme qui m'a précédé, il m'a précédé, car il était bien avant moi. » Saint Jean, chapitre 1, verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Saint Jean, chapitre 3, verset 30. Et il disait encore, Jean-Baptiste disait, et en effet, son mandat, une fois rempli, moi, Jean le Baptiste, je serai ôté. Et il fut ôté dramatiquement. Deuxièmement, nous avons le roi. Le roi reprit le message du héros, Saint Matthieu chapitre 4 verset 17 et chapitre 3 verset 2. En sa personne, le royaume de Dieu était venu, selon Saint Luc chapitre 17 verset 21 et chapitre 10 verset 9 et 11. Il était lui-même le royaume présent parmi les hommes. En se désignant lui-même comme le Fils de l'homme, Jésus exprime cette vérité, la cachant et la dévoilant à la fois. Quelle est l'origine du titre « Fils de l'homme » ? Ce titre que l'on trouve plus de 80 fois dans les évangiles, il a sa racine dans le livre de Daniel. Alors que la nature des empires mondiaux s'y trouve présentée comme celle de diverses bêtes sauvages, vous l'avez entendu dans les CD précédentes, le lion, l'ours, le léopard, des bêtes terribles, le royaume messianique y est décrit comme le royaume du Fils de l'homme, c'est-à-dire comme le premier et le seul royaume de l'histoire qui soit gouverné par une véritable humanité au sens biblique du terme. Je regardais, est-il dit, pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. On lui donna la domination, on lui donna la gloire et le règne. Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Cette prophétie du Fils de l'homme venant sur les nuées des cieux pour établir le royaume de Christ, sans erreur possible, il se l'est attribué, d'une part, dans son discours aux disciples sur le mont des Oliviers, notez Saint Matthieu chapitre 24, verset 30, et d'autre part, devant le Sanhédrin, lorsqu'il prononça les paroles qui le firent accuser de blasphème. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Saint Matthieu chapitre 26 verset 64. En s'appelant lui-même Fils de l'homme, le Christ ne se contente pas simplement de souligner son abaissement et son humiliation de fils de Dieu devenu homme, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 9, par rapport à son passé céleste, ou se référant au présent, de signifier en premier lieu que lui seul, parce que saint et sans péché, est un homme véritable selon la pensée du Créateur. Genèse chapitre 1, verset 27. Il considère bien plutôt l'avenir, affirmant sa dignité divine, sa dignité de Messie. Il atteste par là qu'il introduira le royaume de Dieu au temps de la consommation, lorsque il reviendra sur les nuées du ciel comme homme glorifié et qu'il élèvera sur le trône de l'histoire humaine dans sa divine personne, l'idéal enfin réalisé de la véritable humanité. Fils de l'homme, ça c'est un titre divin, un titre messianique et royal. David avait déjà dit au Fils de l'homme, « Tu l'as couronné », il a dit cela, « du Fils de l'homme, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds », psaume chapitre 8, versets 5 et 7, et ajouter Hébreu, chapitre 2, versets 6 à 9. À la question du grand prêtre, « Es-tu le Fils de Dieu ?» Le Christ peut répondre, « Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu, parce que tout le mystère de sa relation filiale avec le Père est contenu dans ce titre énigmatique. Saint Matthieu, chapitre 26, versets 63 et 64. Ce qu'il y a de divin et de royal dans ce titre est sans cesse mis en avant. Le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Saint Matthieu, chapitre 16, verset 27. Et il doit venir avec puissance et une grande gloire. Saint Matthieu, chapitre 24, verset 30. Et avec tous les anges. Chapitre 25 de Matthieu, verset 31. L'avènement du Fils de l'homme sera comme l'éclair qui part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. Saint Matthieu 24, verset 27. Le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire. Saint Matthieu 19, verset 28. Et en sa qualité de roi, il séparera les peuples comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Saint Matthieu 25, versets 32, 34 et 40. Et vous pouvez ajouter Saint Jean, chapitre 5, verset 27. Si ce titre est en quelque sorte une description voilée du roi divin, Saint Jean, chapitre 12, verset 15 et verset 34, ajoutez Saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 et 16, c'est que le Christ, lors de sa première apparition, voulait être reconnu comme Messie par la foi seulement. Seulement par la foi. Saint Matthieu, chapitre 8, verset 4, chapitre 9, verset 30, chapitre 17, verset 9, et Saint Jean, chapitre 6, verset 15. Immédiatement avant sa mort, il a fait savoir publiquement qu'il était le Messie. Encore fût-ce par un acte symbolique, l'entrée à Jérusalem, Saint Luc 19, versets 29 à 40, et Zacharie chapitre 9, verset 9. Dans le cercle de ses propres disciples, il s'était cependant révélé comme Messie depuis le début et avec toujours plus de clarté. Notez Saint Jean chapitre 1, verset 41 et le verset 49. Ajoutez le chapitre 4, versets 25 et 26 et le chapitre 9, versets 35 et le verset 38. J'ai dit de Saint Jean chapitre 1. Et tout cela jusqu'à la confession victorieuse de Saint-Pierre, qui fut illuminé par une révélation du Père, quand il a dit « Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant ». Saint Matthieu chapitre 16, verset 16. Oui, l'apôtre Pierre a dit, et il a reçu ça de l'Esprit Saint, il a dit « Tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Troisièmement, nous avons le royaume. Les Juifs parlaient déjà du royaume des cieux, et cela avant le temps de Jean-Baptiste, et désignait par là la domination de Dieu sur toutes les choses créées, son autorité royale sur Israël, et plus spécialement encore, le glorieux royaume du Messie à la fin de notre histoire. Que le royaume de Dieu fût appelé royaume des cieux s'explique par le fait que les Juifs, par vénération pour le nom sacré de Yahvé, utilisaient des expressions diverses telles que « très haut », le Dieu très haut, le saint nom, la puissance des cieux. Tout cela pour indiquer la souveraineté divine. Daniel disait par exemple « Les cieux dominent ». Daniel chapitre 4, verset 26, selon la version Darby ou la version de Schlatter, die Schlatter Bibel. Jean-Baptiste et le Christ n'ont donc rien innové en parlant du royaume des cieux. Disons plutôt qu'ils adoptèrent le langage de l'Ancien Testament et du judaïsme environnant, donnant un sens nouveau à une expression déjà connue. « Mon Père, j'ai péché contre le ciel ». Contre Dieu, contre toi. Saint Luc, chapitre 15, verset 21. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Il venait du ciel de Dieu. Où venait-il des hommes? Saint Matthieu, chapitre 21, verset 25. Vous verrez, est-il dit, le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu. Saint Matthieu, chapitre 26, verset 64. Voir la version Darby, la version Albrecht, oder die Schlachter Bibel. Le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Oui, le royaume de Dieu, c'est le royaume des cieux parce que quant à son origine, il est venu des cieux, Apocalypse chapitre 1 verset 7, Saint Matthieu chapitre 26 verset 64. Et quant à sa nature, il porte les cieux en lui-même, Philippiens chapitre 3 verset 20, Éphésiens chapitre 1 verset 3, chapitre 2 verset 6, et Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Quant à son centre, il a pour roi le Seigneur, par qui seul le ciel sera vraiment le ciel. Psaume, chapitre 73, donc 73, verset 25. Le but de l'œuvre du Christ était ce gouvernement royal de Dieu. Le proclamer était sa tâche en qualité de prophète, le rendre possible, son affaire en tant que sacrificateur, et était d'accomplir son œuvre comme roi. Il en découle que la proclamation du royaume des cieux a été le thème distinctif de son message terrestre et que ses paroles ont été toutes des paroles du royaume, celles-mêmes où n'étaient pas expressément employés les mots « royaume des cieux ». Exemple, Saint Matthieu, chapitre 13, verset 3, et le chapitre 21, verset 33. Le royaume des cieux n'est donc pas simplement le ciel ou le royaume céleste, ni uniquement le futur royaume du Messie. 2 Timothée, chapitre 4, verset 18, ni l'Église de l'âge présent, Colossiens chapitre 1 verset 13 et Romains chapitre 14 verset 17, mais simplement et tout à fait généralement l'autorité royale de Dieu en ce qu'elle vient des cieux, et cela par le canal de la rédemption pour être établi sur cette terre et se perpétuer éternellement sur la nouvelle terre. Quant au temps et aux aspects de l'apparition de ce gouvernement divin, le roi y a rendu témoignage, se faisant lui-même son propre messager. Saint Matthieu, chapitre 4, verset 17. Il parlait du royaume en Israël, le royaume de l'Ancien Testament, qui préparait le chemin du salut et qui allait être enlevé aux Juifs, Saint Matthieu 21, verset 43. Du royaume en Christ, le royaume présent, personnifié en lui-même, c'est-à-dire en la personne, et en les œuvres miraculeuses du roi qui avait été fait chair au sein d'Israël. Je répète, donc, du royaume d'Israël, le royaume de l'Ancien Testament, qui préparait le chemin du salut et qui allait être enlevé aux Juifs, selon Saint Matthieu, chapitre 21, verset 43. Du royaume en Christ, le royaume présent donc, personnifié en lui-même, en la personne, Saint Luc, chapitre 17, verset 21, et les œuvres miraculeuses, selon Saint Luc, chapitre 11, verset 20, du roi qui avait été fait chair au sein d'Israël, du royaume dans l'Église. Colossiens chapitre 1 verset 13. Du royaume dans l'Église qui s'était approché en sa propre personne, selon Saint Matthieu chapitre 4 verset 17, et qui se prolonge tout au travers de la dispensation de l'Église. Et là, on peut ajouter Saint Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 47, chapitre 18, verset 23, Matthieu, chapitre 20, verset 1, et toujours Saint Matthieu, chapitre 22, verset 2, comme étant le mystère. Saint Matthieu, chapitre 13, verset 11, jusqu'à la consommation de l'âge. Saint Matthieu, chapitre 13, versets 39 et 49. Tout cela, évidemment, ça vaut la peine de lire toutes les citations bibliques dans le Saint-Livre et de prier pour que l'Esprit-Saint illumine ces textes. Il parlait donc, enfin, du royaume dans la consommation, le royaume messianique de gloire qui avait été prédit par les prophètes et qui viendra finalement avec puissance. Saint Marc, chapitre 9, verset 1. Et cela pour être donné par le Père au petit troupeau. Saint Luc, chapitre 12, verset 32, pour être donné comme récompense. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 10 à 12, et être donné comme héritage. Saint Matthieu, chapitre 8, verset 11, et chapitre 13, verset 43, toujours Saint Matthieu, chapitre 25, verset 34. Donc, l'évangile du royaume auquel se rapporte tout ce qui précède, notez Saint Marc, chapitre 1, verset 14 et 15, ainsi que Saint Luc, chapitre 4, verset 43, ça c'est le vrai thème fondamental du message du Christ. Le contexte seul en définit le sens exact. Par moment, Saint Paul emploie royaume pour parler d'une réalité présente. Selon Romains chapitre 14 verset 17, 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20, Colossiens chapitre 1 verset 13 et chapitre 4 verset 11, alors que souvent il désigne par là une chose encore à venir. Selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 et 10, Galates chapitre 5 verset 21, Éphésiens chapitre 5 verset 5, 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12, 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5 et Actes des Apôtres chapitre 14 verset 22. Toutes ces citations bibliques sont terriblement importantes. Parce que vous savez que la Bible mentionne que nous devons vérifier, contrôler les données que on vous dit afin qu'on ne puisse pas vous dire un autre évangile que celui qui est écrit et qui est le fondement de toute chose. Le royaume n'est donc pas quelque chose d'essentiellement israélite et futur. Saint Paul l'apôtre des incirconcis l'a prêché aux non-juifs eux-mêmes. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 25 et le chapitre 28, verset 31. Il décrit ses activités pendant tout le temps où il est resté à Éphèse, c'est-à-dire 2 années et 3 mois. Selon Actes des Apôtres, chapitre 20, et verset 18, et le chapitre 19, verset 8 et 10. Par ces deux expressions, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, selon Actes chapitre 20, verset 24, et de prêcher le royaume de Dieu, Actes 20, verset 25, c'est toujours le même royaume qui, venant des cieux et de l'éternité, se poursuit à travers les âges pour aboutir à nouveau en l'éternité de Dieu. Il faut aussi se garder d'identifier hâtivement royaume et règne millénial, de ne pas se mélanger là. Royaume et règne millénial, c'est pas pareil. Le royaume est d'abord le gouvernement de Dieu, sa puissante et vivante royauté. C'est l'activité divine qui se poursuive à travers les différentes dispensations dans des formes et des manifestations nouvelles. Nous l'avons vu, même les Juifs de l'époque pré-chrétienne désignaient par royaume des cieux, non seulement le royaume glorieux du Messie, mais encore très souvent le gouvernement moral, spirituel et invisible de Dieu sur la nature, sur les nations et sur Israël. De plus, Jésus-Christ s'opposa, il s'est opposé à une conception trop terre-à-terre du royaume. Notez Saint-Luc chapitre 17, versets 20 et 21 et chapitre 19, verset 11. Bien que fermement attaché à l'espérance d'un royaume visible encore à venir, je répète, bien que fermement attaché à l'espérance d'un royaume visible encore à venir, Saint Matthieu chapitre 19 verset 28 et Actes des Apôtres chapitre 1 verset 6 et 7, nous croyons que l'idée du royaume ne peut s'expliquer sans difficulté ultérieure par la seule référence à la conception judéo-pharisaïque. Il y a un seul évangile, ne l'oublions pas, Galates chapitre 1, versets 6 à 9. Et c'est à la fois l'évangile de Dieu, parce que Dieu en est la source. Romains chapitre 1, verset 1 et chapitre 15, verset 16. C'est à la fois l'évangile de Christ, parce qu'il en est le médiateur, Romains chapitre 15, verset 19, et 1 Corinthiens chapitre 9, verset 12. C'est à la fois l'évangile de grâce, parce que la grâce en est l'âme, Actes chapitre 20, verset 24. C'est à la fois l'évangile du salut, parce que le salut en est le don, Éphésiens chapitre 1, verset 13. C'est à la fois l'évangile du royaume, parce que le royaume en est le but, Saint Matthieu chapitre 6, verset 10, et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28. Et c'est à la fois l'évangile de gloire, parce que la gloire en est le plein effet, selon 1 Timothée chapitre 1, verset 11. Saint Paul, parlant de lui-même et de ses compagnons d'œuvre, Saint Paul dit encore « mon évangile », Romains 16, verset 25, et 2 Timothée chapitre 2, verset 5, et il dit aussi « notre évangile », 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, et 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5, car il en était les messagers. Galates 1, verset 11 et 1 Timothée chapitre 1, verset 11. Quatrièmement, nous avons le chemin du royaume. Le chemin vers la couronne, ce chemin passe par la croix. Après avoir fait du royaume le résultat de son œuvre, le centre de son message, le roi met de plus en plus en avant le moyen d'atteindre ce but, les souffrances. Il parla du fait de sa mort lorsqu'il affirma que l'époux serait ôté, Saint Matthieu, chapitre 9, verset 15, où mentionna la coupe qu'il lui faudrait boire et le baptême de souffrance dont il serait baptisé, selon Saint Marc, chapitre 10, versets 38 et 39. Il en parla surtout à Césarée de Philippe, en Galilée et sur le chemin de Jérusalem. Saint Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 23. Toujours Saint Matthieu, chapitre 17, versets 22 et 23. Et chapitre 20, versets 17 à 19. Il parla de la nécessité de sa mort, impérative et divine. Il faut, a-t-il dit, que le Fils de l'homme soit élevé comme le serpent dans le désert. Saint Jean chapitre 3 verset 14. Il faut que le grain de blé meure pour porter du fruit. Saint Jean chapitre 12 verset 23 et 24. Et Saint Luc chapitre 24 verset 26 à 46. Il parla de la spontanéité de sa mort. Personne ne me l'ôte. Personne ne me ôte la vie, mais je la donne de moi-même. Saint Jean chapitre 10, verset 18. Et il parla de la signification de sa mort, fondement du salut. Saint Jean chapitre 3, verset 14 et 15. Et fondement entier. Saint Jean 19, verset 30, fondement d'un salut universel. Saint Jean chapitre 12, verset 32, ajouté Saint Luc chapitre 24, verset 46 et 47. Et rançon pour tous les perdus, qui est la base d'une nouvelle alliance par le pardon des péchés. Saint Matthieu, chapitre 26, verset 28. C'est la source de sainteté pratique. Et tout cela pour quiconque le suivra. Pour quiconque suivra le Seigneur. Renonçant à lui-même, je dois renoncer à moi-même. Et je dois me charger de sa croix. Saint Matthieu, chapitre 10, verset 38. Ainsi que Saint Luc, chapitre 14, verset 27. Mais toujours, il considérait sa mort en relation avec sa résurrection et sa glorification. Saint Jean, chapitre 10, verset 17. Et cela ressort de ce qu'il dit de la destruction du temple, en Saint Jean, chapitre 2, verset 18 à 20. Du signe de Jonas, selon Saint Matthieu, chapitre 12, versets 39 et 40, de la pierre de l'angle qui est rejetée, Saint Matthieu, chapitre 21, verset 42, et du grain de blé, Saint Jean, chapitre 12, versets 23 et 24. Il voyait pour le pécheur un seul moyen d'avoir part à l'énergie salvatrice de son œuvre, la résurrection et par elle la communication de sa propre vie pour être la vie de ceux qui croient. De là, l'invitation à manger sa chair et à boire son sang, sans quoi, eh bien sans quoi, nul ne peut avoir la vie en lui-même. Selon Saint Jean chapitre 6 verset 53, le pain que je donnerai, et vous le savez, que vous soyez catholique, protestant, n'importe, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Saint Jean chapitre 6 verset 51 et 58. Cinquièmement, nous avons le message du royaume. Jésus-Christ parlait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Saint Matthieu 7, verset 29 et Saint Jean, chapitre 7, verset 46. Il parlait comme ayant autorité que confirmaient les signes et les prodiges. Notez Saint Jean, chapitre 5, verset 36. C'était le but des miracles. Les miracles étaient en fait de confirmer le message du royaume céleste. Saint Jean, chapitre 2, verset 23, chapitre 3, verset 2, chapitre 6, verset 14, chapitre 9, verset 32 et 33, et chapitre 11, verset 47, j'ai dit Saint Jean, n'est-ce pas ? Dans ces textes, les miracles présupposent une attente ardente du salut. Ils sont principalement des destinés. Ils sont destinés à tous ceux qui ont le cœur bien disposé. Saint Matthieu, chapitre 8, verset 8 et chapitre 15, verset 28. De là le refus des signes où n'est trouvé aucun empressement à croire. Saint Matthieu chapitre 12 verset 38 et 39 et Saint Marc chapitre 6 verset 4 et 5. Le message de Jésus-Christ était un enseignement explicatif. Jésus-Christ montrait que l'ancienne alliance avait préparé la nouvelle. Saint Jean chapitre 10 versets 34 et 35 et ajouté Saint Luc chapitre 20 versets 41 et 44 annonçant à l'avance son propre message. Saint Luc chapitre 24 verset 27 et Saint Jean chapitre 5 verset 39. Il faisait de ses paroles un message transfigurant, un message puissant dans la nature ou dans les scènes de la vie humaine. Saint Matthieu, chapitre 13, verset 24 et le verset 33, et ajoutez encore les versets 44 à 45, j'ai bien dit, de Saint Matthieu, chapitre 13. Il était les images et les paraboles du royaume des cieux. Aux ennemis qui le questionnaient, il répondait par d'autres questions qui les forçaient au silence. Saint Matthieu, chapitre 15, versets 2 et 3, chapitre 21, versets 23 à 25, chapitre 22, toujours de Saint Matthieu, versets 17 à 22, et les versets 41 à 45. Le message était donc par là défensif et victorieux. C'était enfin un message instructif. Le Christ initiait à ses mystères les disciples qui étaient avides d'apprendre. Saint Matthieu chapitre 13 verset 18 et Saint Marc chapitre 4 verset 34. Et c'est pourquoi Dieu dit « Celui-ci, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le donc. » Saint Matthieu chapitre 17 verset 5. Et lui-même peut dire « Voici, il y a ici plus que Salomon. » Saint Matthieu chapitre 12 verset 42 et 1 roi, chapitre 10, verset 1 à 10. L'attitude de Jésus-Christ envers l'Ancien Testament est d'une signification toute spéciale. Pour lui, il est la parole vivante et personnelle. Saint Jean chapitre 1 verset 14, il est la parole écrite, l'Ancien Testament, et une indissoluble unité, une véritable, ou si vous voulez, un véritable organisme. Donc l'Écriture sainte, Saint Jean chapitre 10 verset 35, c'est l'autorité, oui, l'Écriture sainte, c'est l'autorité à laquelle il se soumet. Galates chapitre 4 verset 4. L'Écriture sainte, c'est la nourriture dont il se nourrissait. Matthieu chapitre 4 verset 4. L'Écriture sainte, c'est l'épée avec laquelle il se défendait. Saint Matthieu chapitre 4 verset 4 et 7. Et le verset 10, et ajoutez encore Saint Matthieu chapitre 12 verset 3. L'Écriture sainte, c'est le livre de texte qu'il expliquait. Saint Luc chapitre 24 verset 27 et verset 32, ajoutez les versets 44 et 45. L'Écriture sainte, c'est la prophétie qu'il était venu accomplir. Saint Matthieu 5, versets 17 et 18, et Saint Jean, chapitre 5, verset 39. L'Écriture sainte, c'est l'étape préparatoire qu'il surpassait. Saint Matthieu 5, verset 22, verset 28 et verset 32, et ajoutez, toujours Saint Matthieu, chapitre 12, verset 6, et verset 41 et 42. Et l'Écriture sainte, c'est sa propre parole qu'il interprétait et approfondissait. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 11, et Saint Matthieu, chapitre 5, verset 28. Voyez-vous, Jésus-Christ, c'était vraiment quelqu'un que nous pouvons croire du commencement à la fin. Et comment ? Jésus-Christ savait que l'homme est mauvais par nature. Saint Matthieu 7, verset 11. L'homme appartient à une génération adultère et pécheresse. Saint Marc chapitre 8, verset 38. Tous les trésors du monde ne valent pas une seule âme. Saint Matthieu chapitre 16 verset 26. Toute piété charnelle est une abomination devant Dieu. Saint Luc chapitre 16 verset 15. Ainsi est le message absolu de celui qui fulminait en étant plein d'un zèle consumant. Saint Jean, chapitre 2, verset 17, et un zèle contre les pharisiens, qui étaient ses ennemis. Saint Luc, chapitre 19, verset 27. Un chef représentatif d'une religion faite d'apparence et qu'il appelait les pharisiens des sépulcres blanchis pleins d'ossements de mort. C'est pas très flatteur. Saint Matthieu, chapitre 23, verset 27. Il les appelait aussi les insensés. Saint Luc, chapitre 11, verset 40. Il les appelait aussi les aveugles. Saint Matthieu 15, verset 14. Il les appelait les menteurs. Saint Jean, chapitre 8, verset 55. Il les apostrophait d'hypocrites. Saint Matthieu, chapitre 23, versets 13 à 15. Il disait carrément qu'ils étaient des voleurs. Saint Jean, chapitre 10, verset 8. Même qu'ils étaient des meurtriers. Saint Matthieu, chapitre 27, verset 7. Qu'ils étaient des loups ravisseurs. Saint Matthieu chapitre 7, verset 15. Et, pour terminer, très peu flatteur, il les appelait les fils du diable. Saint Jean chapitre 8, verset 44. Des serpents et une race de vipères. Saint Matthieu 23, verset 33. Il appela le temple une caverne de voleurs. Saint Marc, chapitre 11, verset 17. Il disait de Hérode que c'était un renard. Saint Luc, chapitre 13, verset 31 et 32. Ceux qui le confessaient faussement étaient faussement des ouvriers d'iniquité. Saint Matthieu, chapitre 7, verset 23. C'était des fils du malin. Saint Matthieu 13, verset 38. Et tous ceux qui le rejetaient, il les déclarait qu'ils étaient pires que Sodome et Gomorre. Saint Matthieu, chapitre 10, verset 15. Quant à ceux qui suivent cette voie, ils sont tous, hélas, perdus. Saint Matthieu, chapitre 16, verset 25. Et pas seulement perdus, ils sont maudits. Saint Matthieu, chapitre 25, verset 41. Et que leur sort est des pleurs, sera des pleurs et des grincements de dents. Saint Matthieu, chapitre 24, verset 51. Et chapitre 25, verset 30. Leur place est donc dans le feu qui ne s'éteint point. Saint Marc, chapitre 9, verset 44, et Saint Matthieu, chapitre 25, verset 41. Pourtant, le message du royaume des cieux est en même temps infiniment compatissant. Il montre en Jésus-Christ, premièrement, l'ami des pécheurs, Saint Matthieu, chapitre 11, verset 19, et chapitre 9, verset 13. Il montre en Jésus-Christ le médecin des malades, Saint Marc, chapitre 2, verset 17. Le rafraîchissement pour les fatigués et les chargés, Saint Matthieu 11, verset 28. Celui qui bénit les enfants, Saint Matthieu 19, verset 14 et 15. Celui qui annonce de bonnes nouvelles aux pauvres, Saint Luc, chapitre 4, verset 18, celui qui promet le paradis aux brigands moribonds. Saint Luc, chapitre 23, verset 43. Le roi est devenu le serviteur de ses serviteurs. Saint Jean, chapitre 13, verset 1 à 12. Bien que maintenant glorifié, il est encore prêt à servir. Heureux ses serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. C'est fabuleux. Saint Luc, chapitre 12, verset 37. Jésus-Christ réclame une obéissance illimitée, mais il accorde en même temps ce qu'il ordonne. Il est à la fois devoir et privilège. S'il est un royaume qui n'est jamais mis en avant ses droits d'une façon totalitaire, c'est bien le royaume de Dieu. Autorité et obéissance, commandement et soumission, c'est ça, sa règle. C'est un roi, un royaume, une église totalitaire, d'accord? Tout cœur partagé, toute tiédeur est forcément, et ça ne peut pas être autrement, est en abomination au roi. L'homme entier lui appartient, esprit, âme et corps. Voici donc les exigences du roi des rois. Je répète, Jésus-Christ réclame, et on se comprend, j'espère, il réclame une obéissance illimitée. Je suis d'accord avec ça. Mais il accorde en même temps ce qu'il ordonne. Il est à la fois devoir et privilège. S'il est un royaume qui n'est jamais mis en avant ses droits d'une façon totalitaire, c'est bien le royaume de Dieu. Autorité et obéissance, commandement et soumission, c'est là la véritable règle, c'est sa règle. C'est un roi, c'est un royaume, c'est une église totalitaire. Tout cœur qui serait partagé, toute tiédeur sera inévitablement en abomination au roi des rois. L'homme entier lui appartient, pas seulement une partie, l'homme entier lui appartient esprit, âme et corps. Voici donc des exigences du roi des rois. Voyez-vous, renoncer à tout, selon Saint Luc 14, verset 33, se charger de sa croix, Saint Matthieu 16, verset 24, aimer Jésus-Christ plus que tous ceux qui nous sont chers, Saint Matthieu 10, verset 37, le servir lui seul, Saint Luc chapitre 16, verset 13, haïr sa propre vie, Saint Luc 14, verset 26, la perdre afin de gagner éternellement, Saint Jean chapitre 12, verset 25, il ordonne amour fraternel et amour pour Dieu. Saint Marc chapitre 12, verset 28 à 31, vérité et fidélité. Saint Matthieu 5, verset 37 à 37, humilité et désintéressement. Saint Jean chapitre 13, verset 1 et Saint Matthieu chapitre 16, verset 24, il nous demande la confiance, une confiance sereine avec foi audacieuse. Saint Matthieu 6, verset 25 et chapitre 21, verset 21. Il demande un esprit de prière et l'espérance céleste. Saint Matthieu 6, verset 6 et Saint Luc, chapitre 12, verset 35 à 40. C'est pas moi qui dis cela de mon cru. Je vous ai cité les citations bibliques que vous pouvez réentendre, noter soigneusement et vérifier. Je dis le tout, encore une fois, sans les citations bibliques, hein. Voici les exigences du roi des rois, c'est de renoncer à tout, se charger de sa croix, aimer Jésus-Christ plus que tous ceux qui nous sont chers, le servir lui seul, haïr sa propre vie, la perdre afin de la gagner éternellement. Il ordonne amour fraternel et amour pour Dieu, il ordonne vérité et fidélité, humilité et désintéressement, et confiance sereine avec foi audacieuse, esprit de prière et espérance céleste. Ça, c'est le fruit de la vie d'en haut. Il faut une prise de conscience préalable de la position royale de l'enfant né d'une semence divine. Soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Saint Matthieu 5, verset 48. Pourtant, nous devons confesser, après avoir fait tout ce qui nous a été ordonné, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait uniquement ce que nous devions faire. Saint Luc 17, verset 10. Finalement, la fin, elle viendra, et avec elle la victoire. Saint Matthieu chapitre 24, verset 14. Car le message du royaume des cieux a pour but la délivrance du monde. Prêchez l'évangile à toute la création. Saint Matthieu 28, verset 19 à 20. En son saint nom, il y a la repentance et le pardon des péchés, jamais oubliez cela, et cela pour toutes les nations. Et cela en témoignage pour elle, à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Quand le roi apparaîtra, le royaume sera visible. Les bénis du Père l'hériteront. Saint Matthieu 25, verset 34. Et vous pouvez vérifier selon la version Darby ou Die Schlatterbibel. Et il est dit que les justes brilleront comme le soleil a toujours. Saint Matthieu 13, verset 43. C'est là l'espérance que proclame le message du royaume. Quatrièmement, nous avons les auditeurs. Pendant les jours de sa chair, le Seigneur fut serviteur des circoncis. Romains, chapitre 15, verset 8. Il était lui-même sous la loi. Galates 4, verset 4. Et c'est pourquoi il affirme: je n'ai été envoyé que aux brebis perdues, vous avez entendu, de la maison d'Israël. Saint Matthieu 15, verset 24. Dans le sermon sur la montagne, Saint Matthieu, chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, l'entretien qui se trouve près de la mer, selon Matthieu, chapitre 13, le discours du mont des Oliviers, Saint Matthieu 24 et 25, et dans les paraboles, Jésus-Christ s'adressait en premier lieu à des fils d'Israël. Et c'est plus tard, lorsque le mur de séparation aura été ôté par la croix, Éphésiens 2, verset 13 à 16, et que le royaume des cieux aura été ouvert aux gentils, donc les non-juifs, par la conversion de Corneille, Actes des Apôtres, chapitre 10, que les hommes de toutes, je dis de toutes les nations, auront le droit, eux aussi, de prendre directement pour eux-mêmes, de la même manière que les Juifs, l'enseignement essentiel des évangiles. Ainsi, il n'y a plus de différence entre les non-juifs et les juifs par rapport à l'évangile. Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 8 et 9. Voyez-vous, les deux ont droit au même salut. Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 28, chapitre 11, verset 17. Il y a donc un seul évangile, heureusement, et une seule Église. Galates chapitre 1, verset 6 à 9, Éphésiens chapitre 2, verset 11 à verset 22, et toujours Éphésiens chapitre 3, verset 6. Les paroles du Seigneur étaient des paroles de grâce. Saint Luc 4, verset 22. C'était des messages de joie. Elle répandait la bénédiction. Saint Matthieu 5, verset 3 à 12. Et ces messages révélaient le saint nom du Père. Saint Jean 17, verset 6. Et ils annonçaient le salut et la rédemption. résumant le message de son ministère terrestre. Ainsi, dans la période des évangiles, si le cadre est souvent même la forme de la doctrine, Saint Matthieu 5, verset 21, du royaume des cieux, ils avaient la couleur nationale et rappelaient l'Ancien Testament, l'essence et l'esprit en étaient pourtant faits de liberté propre au Nouveau Testament. Les dispensations de la loi et de la grâce ne sont pas séparées, pas du tout, par un événement à caractère unique, mais se recouvrent semblables aux couleurs d'un arc-en-ciel. Et oui. Et septièmement, nous avons pour terminer, avant de prier ensemble, la gloire du royaume. Évidemment, je vous ai cité de très nombreuses citations bibliques. Bien sûr, vous comprendrez que dans mon cas, puisque je suis absolument pas un érudit, alors il m'a fallu beaucoup de peine, beaucoup de travail, beaucoup de concentration, de méditation, de prière, parce que dans mon cas, je dis bien, ça aurait été impossible de rassembler toutes ces données et de pouvoir vous les dire sur un CD sans trop me tromper. Et j'avoue que c'est pas moi qui l'a fait, que c'est par la prière j'ai demandé humblement que je ne pouvais pas le faire, et j'ai dit: Seigneur Jésus-Christ, permets que le Saint-Esprit me guide, m'inspire, me montre, car sans le Saint-Esprit, impossible. Dans mon cas, je dis bien, ça, c'est mon cas, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui a fait des hautes études théologiques, c'est différent. Mais donc, je dois vous dire que ça a nécessité un très grand travail. Alors, nous sommes donc arrivés à la fin de cette étude, et septièmement, j'ai dit que nous avons pour terminer la gloire du royaume. Alléluia. Un roi qui mourut pour ses sujets. Un juge qui est le sauveur de tous. Des aristocrates qui étaient auparavant des esclaves. Saint Luc 12, verset 32 et Romains chapitre 6, verset 20. Des juges qui ont été des véritables criminels. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 2 à 3. Des fidèles qui ont été auparavant foncièrement rebelles. La loi qui est la liberté complète. Romains, chapitre 8, verset 2 et Jacques, chapitre 1, verset 25. Une liberté qui est un esclavage total. Romains, chapitre 6, verset 18. Des citoyens qui furent d'abord tous des ennemis. Romains 5, verset 10. Des gouvernants qui sont en même temps des serviteurs. Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Des hommes nés deux fois, selon Saint Jean, chapitre 3, verset 3, dont plusieurs ne mourront pas. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Tous passés de la mort à la vie, Saint Jean, chapitre 5, verset 24. Des vaincus, en réalité, ils sont vainqueurs. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 et 10. Des héros qui se glorifient de leur faiblesse. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. La gloire du royaume, c'est aussi des méprisés qu'exalte le roi de l'univers. Saint Luc, chapitre 12, verset 32. La gloire du royaume, c'est aussi un empire sur la terre dont la capitale est céleste. Galates, chapitre 4, verset 26. La gloire du royaume, c'est aussi un petit troupeau, pourtant innombrable, innombrable, comme il est dit, le sable de la mer. Genèse chapitre 22, verset 17, et dit Offenbarung, c'est-à-dire Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Et le secret de tout cela, qu'est-ce que le secret de tout cela? Eh bien, le secret de tout cela, c'est un roi de gloire qui est couronné d'épines. Voilà la gloire du royaume. Chers amis, nous allons donc terminer ici. Et demain, Dieu voulant, nous aurons la suite de cette série et la suite sera la bataille décisive de Golgotha, car même Luther parle de la théologie de la croix, la théologie de la lumière. Ça, on verra, Dieu voulant, demain. Chers amis, je ne sais pas si on a encore le temps de prier ensemble. Essayons. Essayons. Ô Dieu, nous t'offrons encore en cet instant nos supplications et l'humble hommage de notre gratitude. Mais nous devons aussi nous humilier profondément devant toi dans le sentiment de notre indignité et de nos transgressions multiples à ta loi sainte. Seigneur, quand on a ta sainte parole, peut-on se sentir faible et chancelant, comme chacun de nous l'est, hélas? Quand on a ta sainte parole immuable, peut-on se livrer à l'inquiétude, à l'agitation, à tant de troubles divers qui portent le désordre dans l'âme et dans le cœur? Quand on a ta sainte parole, peut-on être jamais en proie au doute? Peut-on rester dans l'ignorance des grandes et importantes vérités de la religion divine? Peut-on oublier la mort, le jugement, le salut ou la condamnation? Quand on a ta sainte parole, peut-on, ô notre Dieu, l'oublier ou en faire un si profane usage? Combien ne nous sera-t-il pas redemandé au dernier jour, puisque nous avons tant reçu? Une multitude d'êtres ne possède point cette précieuse sainte parole de vie et de vérité, mais nous, nous l'avons entre nos mains, à chaque instant, nous pouvons l'ouvrir et y puiser les directions, les encouragements, les consolations qui peuvent nous être nécessaires, et nous savons que sa connaissance illumine, elle illumine et rend les plus simples intelligents. Oui, notre portion doit être de la garder, car elle seule peut servir de lampe à notre pied et de lumière pour notre sentier. Or, suivant la ta sainte parole, tu soutiens tous ceux qui s'attendent à elle, et tu as promis d'être leur retraite et leur bouclier. Que les hontes, Seigneur, et ta délivrance viennent sur eux selon ta sainte parole, et qu'elle leur rend la vie. Daigne donc, Seigneur, dans ta miséricorde et tes compassions, incliner nos cœurs à tes témoignages. Donne-nous l'intelligence et l'amour de ta sainte parole, qu'elle nous donne du secours, que nous la serrions en notre cœur, afin que nous ne péchions point contre toi. Alors notre âme vivra, nos pas seront affermis, aucune iniquité ne dominera sur nous. Oh oui, Éternel, ta parole subsiste toujours dans les cieux, ta fidélité dure d'âge en âge. Oui, nous sommes à toi. Sauve-nous, que par ta grâce nous puissions avoir en haine les pensées vaines et aimer uniquement ta loi. Exauce nos ferventes prières, te souvenant de la sainte parole que tu nous as donnée et en laquelle tu nous as fait espérer. Seigneur Jésus, qui nous a donné cette sainte parole, ne nous abandonne pas à nous-mêmes et aie compassion de nous. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et à demain, Dieu voulant, pour la suite. Au revoir, très chers amis.